Bienvenue sur les ondes de Radio Galaxie pour une nouvelle émission de La Poujotte. C'est votre émission pour découvrir la France par les chemins de traverse et c'est avec Christian Cayol, notre baroudeur. Bonjour Christian.
Bonjour Francis.
Alors, où tu nous amènes aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, je ne vais pas te donner la réponse tout de suite, je vais te poser une petite devinette.
Comment ça ?
Si je te dis aujourd'hui, on va bouger les yeux dans les yeux, mais yeux écrit pas avec un Y, I-E-U. Tu vas te demander à quoi je pense.
Facile. Du côté de Narbonne, par exemple.
Oui, c'est pas tout à fait. Parce que justement, je vais t'aider à comprendre. Oui. Du côté de Narbonne, ils se finissent en an.
C'est vrai.
Autour de Nîmes, Argue. Dans les Landes, c'est os. En Bretagne, ker ou plou. Ici, c'est yeux.
Alors
tu
c'est
penses
où
à quoi?
Alors c'est où? Je sais pas.
Voilà. Mais tu veux, voilà. C'est, je parle des villages. Alors, Vénissieux, Dimisieux, Sissieux, Parmilieux, tous les villages finissent par Yeux. On est à l'île Crémieux. L'île Crémieux, on est à 30 km, grosso modo, à l'est de Lyon. La principale ville, c'est Crémieux. Elle est bien connue pour ses fêtes médiévales. Ici, hélas, ça va être 8 jours de grisaille, sans apercevoir le soleil. Ce sera donc 8 jours, les yeux gris. Mais bon, pour la vidéo, le titre de la vidéo, ça restera Les yeux dans les yeux, écrit IEU, que vous trouverez sur mon site Rando VTT Vidéo. Un joli coin à découvrir. On va le faire, on part.
C'est parti.
Allez, c'est parti.
On part en VTT
Oui, dans le coffre.
D'accord.
Alors ici, on est dans le Dauphiné, la partie nord du Dauphiné. Et le Dauphiné, c'est un état indépendant, composé de 3 départements, l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes, non ?
Je sais pas. Là, je te fais confiance.
Non. Bon, je plaisante, ils sont pas indépendants, bien qu'on aurait pu le croire, puisque leur journal s'appelle le Dauphiné libéré. Ah. Mais bon, le reste c'est vrai, c'est bien 3 départements, l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes. Là, on est dans le nord du Dauphiné. Le Dauphiné, c'est quelque chose qui apparaît, qui vient d'une subdivision de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, mais qui a été rattaché à la France en 1349. Le Dauphin, donc le souverain, on va dire, du Dauphiné, le souverain qu'on appelait le Dauphin de Vienne, s'était tellement endetté qu'il a vendu son territoire à la France. Jusqu'à la Révolution française, cette région, donc, le Dauphiné, est devenue ce qu'on appelle l'apanage du fils aîné du roi de France, qui prend le nom de Dauphin. Apanage, c'était donc ce qui revenait comme territoire au Dauphin en attendant de prendre la succession comme roi. En opposition avec les autres enfants qui s'appelaient les enfants puinés, c'est-à-dire nés après, et qui eux, donc, étaient exclus de la succession. Et certains Dauphins ont fait un peu leurs armes du pouvoir, en particulier comme Louis XI, mais ce n'est pas allé sans affrontement avec son père Charles VII. Lorsqu'il a pris le Dauphiné comme dauphin, il a rétabli des impôts, ça a fait une sorte de petite révolution, et c'est son père qui a repris les rênes, et Louis XI est allé se cacher. Voilà. Bon, j'ai fait un petit raccourci de l'histoire. On est donc en Isère, tout proche du Rhône, qui a dessiné, alors il a taillé un triangle, en montant vers le nord, puis en redescendant vers le sud, le Rhône fait donc ça, il monte et il redescend. Sur un plateau calcaire, il a taillé un triangle que l'on appelle l'île Crémieux. Et ce plateau calcaire est percé de nombreuses cavités, on en recense plus de 250, en particulier les grottes de la Balme, ouvertes à la visite. Il y a eu des traces de l'homme de Néandertal, des outils, des silex, puis l'homme de Cro-Magnon, on a trouvé des ossements, du renne, du bouquetin, des chevaux. À partir de 4000 ans, ce sont des agriculteurs du néolithique qui colonisent la région en laissant des haches polies certaines, des vases. Surtout, la légende raconte que Mandrin, alors là on va parler de Mandrin qui est une légende réelle, hein, il a existé, le contrebandier bien-aimé qui a utilisé cette grotte comme repère. Alors c'était facile pour s'y cacher parce que La grotte de la Balme, le porche doit faire 40 mètres de haut et 20 mètres de large et 80 mètres de long. C'est une immense salle. sur lesquels on peut, par des petits cheminements d'affluents fossiles, revenir à des hauteurs des postes d'observation. Ils pouvaient observer très facilement les allées-venues si la marée chaussée arrivait. Ils pouvaient s'y cacher. C'était spacieux. Quand même, racontons un petit peu l'histoire de Mandrin. À cette époque, les fermiers généraux, ils prélevaient sur toutes les marchandises des taxes, comme la gabelle, l'impôt sur le sel, mais aussi sur le tabac et sur les tissus. Ils faisaient des abus considérables. Ils prenaient leur part, redonnaient au roi, mais redonnaient certainement pas tout. Ils s'en gardaient énormément et ils étaient haïs par la population. Et Mandrin était d'origine commerçante. Et il avait une petite affaire et un contentieux sérieux l'a opposé à la ferme générale. Il a tout perdu, il était parti à une expédition où il devait ramener des produits. Il était parti avec 100 mulets, il est revenu avec 17 bêtes. Quand il a voulu se faire payer par les fermiers généraux, ils ont refusé. Enfin bon, voilà, il avait le couteau sous la gorge. Et il n'a pas eu d'autre solution que de se mettre comme voleur et contrebandier. La contrebande se faisait avec la Savoie toute proche, qui avait 10 à 20 fois moins de taxes qu'en France. C'était très simple d'aller acheter du tabac et des soieries, de les ramener, de les vendre. Alors Mandrin, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il en faisait profiter les habitants du Dauphiné. Il revendait à des prix très intéressants. Et puis il s'est mis à piller carrément les fermiers généraux. Il les pillait et il leur imposait même de lui racheter la contrebande qu'il faisait, de se les faire payer par les fermiers généraux. Voilà. Et Mandrin avait un pouvoir de séduction énorme. Il libérait les prisonniers, mais pas les prisonniers qui avaient tué ou volé. Il libérait les prisonniers qui avaient subi les tribunaux par rapport aux impôts et par rapport aux fermiers généraux. Au sommet de sa gloire, il comptait plus de 800 mandrins, 800 personnes, sous ses ordres. Quand il était en Savoie, il en avait 800, mais quand il faisait des expéditions en France, il en avait au maximum 400. C'était une sacrée troupe. Alors, Mandrin, ça a duré un an et demi où il a fait ça. Il a volé les fermiers généraux, il a fait la contrebande. Et il a fait ça pendant un an et demi au cours de 6 campagnes. Il a parcouru du Jura à l'Auvergne, le Vaucluse, les Alpes. Il a tout sillonné, il faisait énormément de trajets. Je me suis rendu compte en lisant certains bouquins. Il arrivait à faire 70 à 50 à 70 km par jour en faisant 3 ou 4 attaques de fermiers généraux dans la journée avec sa troupe. Alors la population, il était aimé parce qu'en plus de ça, il donnait du travail. Il leur faisait profiter de ses largesses. Et quand il arrivait dans une auberge avec 400 personnes, ben ça faisait bosser, quoi. Et la légende de Mandrin a commencé à se répandre. Il a été dénoncé par des espions. Et une expédition de 600 hommes pour aller arrêter Mandrin. Ils ont franchi la frontière de nuit. Alors, 600 hommes, l'armée du roi français, ont passé la frontière, sont allés en Savoie le chercher. Ils ont fait une expédition de commando. Lors de cette expédition, il y a eu une vingtaine de morts. Et Mandrin s'est rendu quand il a vu que ses hommes se faisaient tuer, donc il s'est rendu. Il a été de suite conduit au tribunal de Valence, jugé dans la foulée, roué de coups le surlendemain. Ça s'est passé extrêmement vite. Ils ont fait ça très très vite, de peur que la sentence ne soit pas exécutée. Et il a été roué de coups, c'est-à-dire 8 coups de barre de fer qui te cassent les bras, les avant-bras, les jambes et les reins, vifs. Et ensuite, ils l'ont laissé 8 minutes agoniser pour finalement l'étrangler. Il n'a pas dit un seul mot. Voilà. Et tout ça, ça a fait grandir sa légende, qui reste encore de nos jours.
C'est le Robin des Bois français.
C'est un peu le Robin des Bois, oui aussi. C'est un peu le Cartouche, parce que Cartouche, c'était 30 ans avant. Là, on est à 1750 environ, j'arrondis. Hein. Donc, pour ça, son audace, sa jeunesse et ses aventures, Mandrin est resté célèbre et apprécié de son vivant. Ça a devenu un personnage épique, défenseur du peuple, qui a pris les armes pour lutter contre les injustices, contre les voleurs, voilà. Et qui n'a pas chanté ou entonné sa complainte, la complainte de Mandrin, tout, on s'en souvient un petit peu quand même, voilà. Alors, allez visiter la grotte de la Balme, et vous replongerez, grâce à ces labyrinthes, dans ces histoires-là. Puis il y a de très beaux gours, il y a un joli lac aussi à voir, dans cette grotte. Cette région, c'est une région où les passionnés de patrimoine, ils prendront une grande et belle leçon d'histoire aussi. De beaux villages. En particulier, le premier, c'est Crémieux. des ruelles étroites, des maisons couvertes de lauzes, des portes monumentales. Jadis, c'était une porte frontière qui assurait la sécurité entre le Dauphiné et la Savoie. Crémieux était fortifié. C'était pas Carcassonne, mais quand même 3,5 km de remparts. Certains sont encore, on peut les voir, et dominés par un château. Alors, en 1315, le dauphin de Vienne, le Dauphiné n'était pas encore attaché à la France, donc c'était le dauphin de Vienne, il accorde une franchise ainsi qu'à sa banlieue. Banlieue, c'est un terme bien particulier. La banlieue, c'est 4 km du point central. C'était une distance bien définie. Et donc là, c'était accordé une franchise pour Crémieux et sa banlieue, ce qui a été l'objet d'un rayonnement et d'un développement important de Crémieux. Et au centre de Crémieux, il y a une grande halle, grande et belle halle, environ 1500 m², recouverte de 400 tonnes de lauzes, portée par un entrelacs de poutres et de chevrons. À un angle de cette halle, on peut découvrir un grand comptoir avec aux quatre coins des auges en pierre taillée, un peu comme à Cologne, dans le Gers, nous qui ne sommes pas bien loin. C'était les mesures officielles de grains. Ça se remplissait, et on en sortait un bouchon pour le faire couler. Tout ça, c'était avant le système métrique qui n'est apparu qu'en 1840. L'unité de base, ça s'appelait le bichet, 19,50 litres environ. On n'en trouvait pas partout. On en trouvait en particulier à Crémieux. Crémieux a subi la peste, surtout la première, celle de 1631, où la moitié de sa population, c'est-à-dire 800 personnes, sont mortes de la peste. Par contre, pour ce qui est de la peste de Marseille en 1720, une politique de contrôle des allées et venues, une fermeture des portes la nuit, Crémieux a été épargné. Un deuxième beau village à aller voir, c'est Pérouge, qui n'est pas très loin, qui est à quelques kilomètres des Dombes aussi. C'est un village qui a une unité de construction et qui a servi de décor à pas mal de films de KPDP, en particulier Angélique, marquise des Anges, on s'en souvient peut-être, et Les Trois Mousquetaires. Voilà. Très peu de châteaux forts conservés intacts. Il y en a deux que je vous conseille de voir. Le château de Saint-Quentin-Valavier, il est élevé sur une enclave savoyarde en territoire dauphinois. Alors c'était bizarre parce qu'on avait la Savoie d'un côté, le Dauphiné de l'autre côté, et parfois, eh bien, en plein Dauphiné, il y avait une enclave savoyarde, et en plein de Savoie, il y avait une enclave dauphinois. Alors voilà, comme ça. Donc ça c'était l'enclave savoyarde dans le Dauphinois. Et puis vous avez le château des Alines sur la frontière Dauphiné-Savoie. Et lui, il contrôlait aussi le passage des allées et venues. Il y avait un petit groupe de 4 à 5 soldats, un poste de surveillance et d'attaque aussi, et de défense, qui contrôlait les marchands d'Italie, les pièces d'armure, les bijoux, les soies qui passaient au pied du château. Il faut savoir qu'il y avait ce château, donc le château des Alines, la vallée, mais de l'autre côté, il y avait le château savoyard qui était pile en face. Ouais, bon.
Et ces châteaux, ils se visitent ou c'est que des ruines?
Alors,
maintenant
il n'y a pas beaucoup de châteaux forts, il y a ces deux. Ce sont les deux qui sont à peu près intacts. Sinon, il n'y a plus rien. Alors, le château de Saint-Quentin-Falavier, vous pouvez rentrer dans la première enceinte, parce qu'il y a des remparts, vous pouvez rentrer et approcher du château, que vous allez voir très bien. Il est tout petit, en plus. Hein. C'est un parc entretenu par la mairie, très bien entretenu. Donc, là, vous approchez du château. Quant au château des Alines, là, vous pouvez le visiter. Alors, c'est un château, franchement, vous aviez les remparts. Il n'en reste que la moitié, même pas, un tiers. Quant au château lui-même, c'est une cour qui est fermée par quatre côtés, donc, et une cour intérieure, et une tour. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et un chemin de ronde tout le tour, ça se visite. Aucune porte, enfin ici, il y a juste la porte d'entrée avec un pont-levis. Aucune fenêtre, rien. Donc voilà pour les châteaux. Dans un autre domaine, par contre, des châteaux, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a de très, très belles cascades. Alors, je vous en parle de trois. La cascade de Glandieu, pas de marche d'approche. Au bord de la route, elle jaillit de 30 mètres de haut et elle coule sur une verticale de Montmilch, de tuf, moussu. Elle est saisissante, elle est très belle. Vous avez la cascade des Dards, à côté d'un ce qu'on appelle le pont romain des Fées, un petit pont sur rien, qui franchit un petit ruisseau de 3 mètres ou 4 de large, romain, et il ne reste que l'armature, si on veut la voûte, il ne reste plus que la voûte. Par contre, la cascade, elle fait 30 mètres de haut, elle est large, et en bas, vous ne pouvez pas y rester sans vous mouiller. Hein. Prenez un caouet, parce que c'est vraiment, ça crache vraiment énormément. Attention à la descente, il faut s'accrocher aux branches, mais vraiment, quand je dis s'accrocher aux branches, il faut viser les arbres et se tenir par les rameaux pour descendre. Hein. Elle est très belle. Et vous avez la cascade, je la garde pour la fin, la cascade Servérieux à Artémare, c'est le petit ruisseau, le Séran, qui a creusé une petite gorge, une succession de cascatelles et de marmites de géants. Et la cascade, elle fait un bond de 60 mètres, plein vide. Voilà, elle est remarquable et on ne peut pas l'oublier, inoubliable. Alors, dans un tout autre domaine, il ne faut pas manquer d'aller sur un site archéologique qui s'appelle le site de l'Arina. En patois, l'Arina, ça veut dire la ruine. Alors, c'est un site qui est à la pointe du plateau, qui est bordé de falaises, qui a été occupé depuis l'âge du bronze, entre 2000 et 2000 ans environ, avant Jésus-Christ. Ensuite, c'est devenu un oppidum gaulois, du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc ce site est protégé sur deux côtés, puisque c'est un triangle, par des falaises. Au 1er siècle, un rempart de terre de 10 mètres de hauteur a été construit pour se protéger sur les trois côtés. Puis c'est devenu une villa gallo-romaine. Enfin, des cabanes de torchis et des fondations de galets au 4e et au 5e siècle. Puis il a été abandonné. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit pas grand-chose parce que les cabanes de torchis ont disparu, mais il reste les fondations en galets, donc c'est des fondations qui dépassent de 40 ou 50 cm du sol. On voit que les habitations se sont chevauchées parce que les unes par rapport aux autres se chevauchent, ça on le voit très bien. C'est très didactique, il y a beaucoup de panneaux d'explications. Il y a une nécropole, tout ça c'est très 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 bien fait. On voit qu'il y a de l'argent qui est venu certainement de la centrale du bûcher qui est juste à 2 km à vol d'oiseau qui est de là. Et donc ça il faut le voir. Et je trouve que ça a une grande similitude avec quelque chose dont j'avais parlé sur une vidéo il y a quelque temps qui s'appelait « À la recherche du bonheur » et où je parle d'un site, les Rochers du Causse, au nord de l'Hérault. C'est vraiment très semblable et puis en plus c'est pratiquement la même époque. Et alors en changeant complètement maintenant, si on descend un peu vers le sud, l'île Crémieux, si on descend vers le sud, on tombe sur 150 lacs ou 200 lacs, des marécages d'origine glaciaire, un paradis pour les oiseaux, préservé, et environ plus de 1300 espèces végétales. Ce sont des zones humides, peuplées d'espèces endémiques protégées, dans des espaces sensibles. Alors, certains sont aménagés avec des sentiers comme les temps de lampe, sentiers thématiques, observatoires. L'emblème, c'est la tortue cistude. C'est l'emblème de ce site. Bon, moi, en ce qui me concerne, moi, chaque fois, mis à part quelques foulques, j'ai jamais rien vu. Pas plus de tortue cistude que de tritons crétés ou d'écrevisses à pattes blanches. Idem pour les orchidées, les écuelles d'eau, les langues de serpent, les germandrées d'eau, enfin bon voilà.
Tu fais trop de bruit.
Oui, je pense qu'il doit falloir s'y installer pour la nuit et être en tenue de camouflage et pas bouger, oui, bon, parce que là on ne voit rien. Bon. Alors, pour conclure un petit peu, l'île Crémieux, ça ressemble à un Causse. Hein. Ici, on dirait que c'est un Causse, par exemple, ça ressemble beaucoup au Quercy ou à Bruniquel. Et quoi d'autre encore aussi sur ce Causse? De nombreuses carrières de pierre, les lozes. Et la pierre, elle sert à tout. Les plus grosses pierres qui sortent les premières des carrières, elles servent de palissades dans les chemins ou dans les murs. On les appelle les palisses. Et ensuite, on va sortir les lozes pour faire les toitures. Puis, on va sortir des morceaux plus épais, plus gros, les moellons. Et enfin, on va sortir des grosses pierres longues qui servent de piquets de clôture et qui s'appellent les bigues. Alors, je parle de lozes. Et je vais parler pour terminer du VTT, fait à Crémieux une randonnée qui s'appelle la randonnée des Lozes. Et comme je vous disais, ça ressemble beaucoup au Quercy, et notamment une rando que j'ai faite l'année passée sur une vidéo que j'ai appelée Tarnez-vous, que vous trouvez sur mon site, qui s'appelle les 2000 de Bruniquel. On est de la région. Alors moi j'ai bien aimé la boucle retour, notamment parce que ce sont des monotraces herbeux entre les buis, laissant entrevoir les paysages en contrebas des falaises. Une rando intéressante où j'en ai pris plein les yeux. Voilà, pour terminer. Eh bien, le mois prochain, ce sera le nord de Rodez. En attendant, je vous dis bougez, et bougez en France, il y a tant à découvrir.